Les petites histoires font les grandes histoires. Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région, avec Petites et Grandes Histoires de la Basse-Marche.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle chronique des Petites et Grandes Histoires de la Basse-Marche. C'est notre 161e émission et notre 128e chronique. J'ai intitulé la chronique d'aujourd'hui « Autour de la cheminée, hier, en Basse-Marche ». Pour les textes, nous avons fait appel aux auteurs et aux ouvrages suivants « Pleine terre » et « Le voyage rustique » de Charles Sylvestre, « Une enfance » de Jules Marouzeau, « Bergère, éternelle bergère » de Louis Peignot, « La joie de l'été » de Paul Lavergne et « La société rurale en Limousin et Basse-Marche » d'Albert Gourceau.
La Basse-Marche a plein d'histoires à raconter. Écoutez-les avec Petites et Grandes Histoires de la Basse-Marche.
Devant mon feu, quand je tricote, je me dis des contes tout bas, tout ce que je vécu et qui m'émure, et qui sont loin, maintenant, comme dans une autre année. Quand je tricote et que mon feu susurre, je revis l'adorable temps de mes émois anciens. Ils m'accompagnent dans la vie tranquille et falote de village. Ils sont avec moi au coin de la cheminée et m'enveloppent de douceur. Oh, mes émois des temps dissemblables. Oh, mes émois dans le temps d'à présent. La cheminée traditionnelle avec ses deux pieds droits, son manteau et sa hotte n'apparaît vraiment qu'au XIIe siècle. En effet, il ne paraît pas qu'il y ait eu des cheminées dans les maisons de l'époque romaine. Au début du Moyen-Âge, on chauffait les intérieurs des appartements, soit au moyen de foyers inférieurs qui répandaient la chaleur par des conduits sous les pavages des appartements, mais cela ne concernait que les maisons riches. Soit au moyen de réchauds remplis de braises qu'on roulait d'une pièce dans l'autre. Quant aux cheminées traditionnelles, au fil du temps et surtout lorsqu'on les adaptera aux maisons paysannes, on supprimera progressivement la hotte et on abaissera le manteau. Mais ces cheminées permettaient toujours, dans tous les cas, à un grand nombre de personnes de se réunir et de se chauffer.
Petites et grandes histoires de la Basse-Marche.
On a coutume de dire qu'avec ces cheminées, on y grillait par devant, tandis que on y gelait par derrière. D'autant plus que bien souvent, on laissait la porte d'entrée entrouverte, y compris l'hiver, pour assurer le tirage et éviter l'enfumage de la cuisine. Ces cheminées sont grandes parce qu'elles doivent chauffer un grand volume, parce qu'elles servent à la fois à chauffer et à faire cuire les repas des gens et parfois la nourriture des animaux, parce que l'air qui entoure la cheminée doit être assez vaste pour installer la famille et les voisins autour de l'âtre lors des veillées.
Petites et grandes histoires de la Basse-Marche.
L'hiver, pour moi, était la saison de la cheminée. Notre cheminée étalait au fond de la cuisine son large mur de suie. Ainsi s'exprime Jules Marouzeau. Au-dessus, la planche qui porte en son milieu un crucifix avec un brin de buis béni, car ma mère est pieuse. À droite, le tas des journaux récents, car mon père est radical. À gauche, le dernier almanach de la Creuse, et aligné les chandeliers de cuivre qu'on prend le soir pour aller se coucher. Au mur, couronnant le tout, le fusil de chasse de mon père avec sa carnassière, fier trophée qui nous classe dans l'aristocratie du village. Contre l'âtre, les deux crémaillères où l'on accroche poils et marmites. Dans le mur de gauche, un réduit où l'on met le lait pour faire de la crème de lait chauffé. Un gros lait, c'est-à-dire un grillon du foyer, y habite et parfois, à la veillée, vient passer la tête par un petit trou du mur. De hauts chenets de fer portent l'édifice des bûches. Louis Peignot complète cette description. La partie basse, où l'on faisait le feu, autrement dit l'âtre, était constituée par une aire de 3 à 4 mètres carrés au minimum, pavée de grosses dalles de pierre, remplacées par la suite par des carreaux de briques maçonnés. Dans les maisons paysannes plus modernes, le fond du foyer, autrement dit le contre-cœur, était protégé par une plaque de fonte. Les forges de Mondon, dans la commune de Meillac-sur-Benaise, s'étaient spécialisées dans la production de ces plaques de fonte. Deux consoles, parfois deux jambages, supportaient le manteau de la cheminée avec tablette en bois où étaient posées une ou deux lampes, un crucifix, le calendrier et quelques images pieuses. Juste au-dessous de la gueule du four, on trouvait le cendrier qui n'était qu'une cavité creusée dans le mur de refend. Sur la hotte, le fusil du maître était au repos, couché sur ses deux petites consoles de bois. La cheminée n'était jamais placée en face de la porte d'entrée. On préférait l'installer contre un des murs latéraux en raison des commodités que ce choix procurait pour l'agencement intérieur de la maison. Les deux coins de l'âtre étaient généralement occupés l'un par le fauteuil du grand-père et l'autre par le coffre à sel. La cheminée sert d'abord à l'éclairage, parce qu'il fait sombre le soir autour de la cheminée, car la place de la bougie est au milieu de la table et l'on n'est éclairé que d'en bas par la flamme intermittente des bûches. Mais la cheminée, c'est surtout pour se chauffer. Le feu gagne les bûches une à une, les ronge par le milieu, jusqu'à ce que tombent les deux tronçons que je redresse contre la barre des chenets. Dans la mousse qui vêt l'écorce des bûches, un mille-pattes, fuyant la flamme, tourne, affolé, sans trouver d'issue. Je lui fais un pont de brindilles. De la tranche, au debout des bûches, suinte en écume, la sève chantante. Le cri-cri du grelet, le grillon, sonne à contre-temps du tic-tac de la pendule. La fumée lèche sans fin la suie de l'âtre, parfois illuminé d'une étincelle, menue étoile filante, et monte en tourbillon dans le large trou noir de la cheminée pour s'échapper là-haut vers le ciel bleu de la nuit, sous la lune froide. On se chauffait uniquement au bois, qui était pris dans la propriété. Fagots et branchages donnaient une flamme vive et claire pour les cuissons rapides. Au contraire, le feu de bûche donnait une chaleur douce, propice aux cuisines mijotées. De plus, il tenait longtemps, d'où la préférence qu'on lui accordait pour l'éveiller. Branchages et bûches étaient dans les maisons riches posés sur des landiers en fer forgé que fabriquaient les forgerons locaux. Mais dans les maisons pauvres, on se contentait de modestes chenets sans fioritures. Albert Gourceau nous précise quels sont les objets pour faire le feu. Ces objets comprenaient essentiellement une petite pelle à feu, une paire de pincettes, un soufflet, et nous ajouterons un tisonnier. Dans bien des maisons, on ne laisse jamais vraiment mourir le feu. On couvre de cendres les braises, cendres que l'on souffle au matin, de même que les braises, qui permettront d'enflammer un feu de fagot. On achetait parfois des allumettes de contrebande au colporteur. On utilise encore des méchoux, petites lamelles de bois très sec enduites de soufre aux deux extrémités, ou encore des lumets, petites tiges de joncs enduites de graisse, qui s'enflammaient très facilement. Je reviens sur la pelle à feu qui permettait, avec le cendrier de l'âtre, de recueillir précieusement la cendre que l'on utilisait pour les bujades, pour les lessives.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
La cheminée a une vie du soir, nous y reviendrons, mais elle a aussi sa vie du jour, et sa vie du jour, c'est la cuisine. C'est dans mon coin qu'on installe le tournebroche, et j'ai la charge de le remonter quand un timbre fêlé annonce que son ressort est à bout. C'est là, sur un trépied, que mijote la brasière où se font les pommes de terre farcies. Ma mère fixe le couvercle par le bord avec une bande de pâte, et j'entretiens dessus et dessous, avec le soufflet, le rougeoiement des braises. Le dimanche matin, quand on descend de la crémaillère le pot-au-feu pour le caraméliser, c'est moi qui fais rougir les pincettes et les tiens en travers sur la marmite ouverte, tandis que ma mère passe entre les deux branches un gros morceau de sucre. C'est dans le coin de la cheminée que de temps en temps, pour économiser le pain, on fait des tourteaux ou des galettes de blé noir. Ma grand-mère, dont c'est la spécialité, chauffe sur le trépied sa platine de fonte, prend sa paille, chiffon d'étoffe attaché au bout d'une baguette de coudrier, la plonge dans une écuelle de petit lait où nage une coquille de beurre, en asperge la platine, à ce moment délicat fait flamber en dessous à la pointe d'un genêt sec et verse une louchée de pâte qui, caressée en rond du dos de la cuillère, brunit soudain en se piquant de mille petits cratères. Et voici comment la galette est cuite. Et la grand-mère va les amonceler en colonne sur une serviette de grosse toile. Dans ce passage, Jules Marouzeau nous cite le tournebroche, le trépied, la brasière, le soufflet, la crémaillère, les pincettes, la platine. Et nous pourrions ajouter les marmites et les chaudrons, les toupies, les poêles et les poêlons, les casseroles, surtout les casseroles à trois pattes. Avec Albert Gourceau, je vais essayer de donner quelques définitions. La braisière ou brasière est un récipient en fonte, large et peu profond, avec couvercle et pied, d'où la possibilité d'avoir le feu dessous et le feu dessus. Elle servait pour les ragoûts, les daubes, les civets, bref, toutes les cuisines mijotées. La platine à galette, c'est un plateau en fer muni de pieds qui se plaçait précisément sur un feu de braise. On y cuisait les galettes de blé noir. Concernant les poêles, on trouve le poêlon dans lequel on faisait fondre le lard dont on incorporait la matière grasse à la soupe de légumes, une poêle percée pour cuire les marrons. Toutes ces poêles étaient en fer. Si l'on recherchait une cuisson rapide à feu vif, on les posait sur le porte-poêle, sorte de double S que l'on suspendait à la crémaillère juste au-dessus des flammes. Si, au contraire, il suffisait d'un feu de braise, on les installait sur un trépied. À noter que lorsque les poêles avaient une longue queue, pour éviter leur basculement, lorsqu'on les posait sur le trépied, on les fixait en entourant l'extrémité de leur queue d'une chaînette suspendue au manteau de la cheminée. La crémaillère est une pièce métallique dotée de crans suspendus à une barre horizontale fixée dans une cheminée et qui sert à suspendre les marmites pour éviter à ces dernières d'être en contact avec les flammes. C'est donc une pièce essentielle, celle que l'on installe, que l'on pend à la fin de la construction d'une maison. Donc, pour célébrer un emménagement, on organise un repas qui nécessite pour la cuisson que la crémaillère soit installée, d'où l'expression « pendre la crémaillère ». Dans cet ensemble concernant la cheminée, on trouve aussi le four à pain, dans l'âtre ou à côté de l'âtre, Nous en avons longuement parlé dans notre émission « Le pain, jadis en basse marche ». Voici comment Claude Dahadoun nous explique ce que l'on trouve autour de la cheminée à Blon. Une grande houle en fonte de forge de 6 seillées, un pot pour cuire les châtaignes d'une seillée et demie, un pot pour faire la soupe d'une seillée et une petite marmite d'une demi-seillée sont accrochés à la chaîne de la crémaillère. L'houle est le plus gros des chaudrons. Il est 6 fois plus grand que la marmite pour la soupe. À même le feu, on dépose les poêles de toutes sortes, la padella qui est une poêle à frire, ou le pot d'erzo troué pour rôtir les châtaignes. Une poêle en fer et une galetière platine en fonte pour faire revenir les galettes sont supportées par deux chenets dans le foyer. Sur la poutre de la cheminée sont rangés un petit chandelier en broche de fer, un petit chenail en cuivre, c'est-à-dire une petite lampe que l'on appelle ailleurs « chaleuil », à leur côté trône un canon à fusil, parfois en mauvais état, sans autre garniture, ni bois, ni platine.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Une grosse activité se pratique le soir devant la cheminée à la veillée, c'est le rite des châtaignes. C'est Jules Marouzeau qui nous en fait récit. Devant la cheminée se pratiquait l'hiver le rite des châtaignes. On les pelait le soir à la veillée, assis en rond autour du feu, le panier plein posé sur une chaise. De la pointe du couteau de poche, on fait une incision en spirale. En partant du côté plat et d'un coup sec, on détache l'enveloppe vernissée qui tombe au feu en gardant la forme du fruit, comme un moule qu'on a vidé. Le lendemain, longtemps avant le jour, du fond de notre lit chaud, nous entendions ma mère qui, levée avant tout le monde, blanchissait les châtaignes, ce qui consistait à les brasser demi-cuites avec une grande tenaille de bois en coche pour enlever la peau brune intérieure. Elle égouttait ensuite l'eau sur le seuil de la porte, puis disposant dans le fond de la marmite une feuille de chou, elle remettait au feu. À ce moment, tintait le cliquetis de la crémaillère. Un peu plus tard, autour de la table sans nappe, chacun écrasait les châtaignes dans son bol de lait caillé jusqu'à ce que sorte de la blanche mer laiteuse un petit îlot farineux.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Nous allons terminer avec une petite évocation de la veillée autour du feu, un texte de Charles Sylvestre, extrait de Pleine Terre. Ce soir-là, à Villemonteil, vieille métairie, nous étions une bonne douzaine de bonnes gens dans la salle où vivait un beau feu de bois. Au dehors, le vent d'ouest donnait de la voix. C'était un gémissement monotone plus qu'un souffle furieux du ciel. Une immense chose aveugle ne cessait de se lamenter à la porte et s'en allait et revenait, cogner, pleurer. Nous regardions le feu. La peine des ténèbres et la nôtre y brûlaient ensemble. Il travaillait une souche d'ormeaux et peu à peu les braises croulaient sous la barre du foyer formée d'une ferrure de roue. Une fabuleuse tarière tournait dans la rude fibre. La suie riait en joyaux noirs. Un grillon disait clairement un charme si simple et si fort. Les hauts chenets à coupe gardaient la merveille d'or. Dans la profonde cheminée, le grand-père Léonard était bien assis sur un fauteuil en latte de châtaignier et sa femme, Mariette, sur le coffre à sel. Parfois, le chien, allongé près de Léonard, haletait comme s'il venait de courir en plein soleil. Il tirait une langue embrassée, flottante, Il refermait sur cette flamèche rouge sa bonne gueule et recommençait de sommeiller. En face du feu, la Bru, brave femme, à la face joufflue et rose, reprisait du linge et son homme, le Justin, tressait un panier de vime. Près de moi, était assis sur un tabouret le père Touron, propriétaire et cultivateur, mi-chasseur, mi-braconnier. Il a le lignol bien coupé. On l'invite à cause de cela. Avec lui, on ne s'ennuie pas. Et les discussions vont bon train, on sert le vin chaud et l'on fredonne quelques chansons. Il est bientôt près de 10 heures du soir. Il est temps d'aller se coucher.
As-tu vu le ramoneur, le ramoneur, le ramoneur? As-tu vu le ramoneur qui passait dans la rue? Oui, j'ai vu le ramoneur, le ramoneur, le ramoneur. Oui, j'ai vu le ramoneur qui passait dans la rue.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Bien que le texte sur la veillée nous indiquait qu'il était temps d'aller nous coucher, nous ne pouvons terminer cette émission sur le thème de la cheminée sans dire deux mots sur la tradition des petits ramoneurs. Au XIXe siècle, ce sont des ramoneurs savoyards qui, fuyant la pauvreté, sillonnent toute la France pour venir ramoner les cheminées. Ce sont des enfants des familles pauvres qui effectuent ce travail. Départ le jour de la Saint-Gras en février, et retour l'année suivante, à la belle saison. Dès 6 ans, les enfants sillonnaient à pied les routes de France avec le maître ramoneur qui les avait embauchés. Ils ramonaient avec un hérisson, mais et c'est pour cela qu'on utilisait la petite taille des enfants, ils grimpaient aussi à l'intérieur du conduit de la cheminée pour la racler, et cela par des échelles de 2 mètres de hauteur. La suie, ainsi récupérée dans des sacs, était revendue à des usines. Le maître ramoneur imposait jusqu'à 14 heures de travail par jour et pour tous les jours de la semaine. Les maîtres ramoneurs, souvent d'anciens ramoneurs devenus trop grands et trop gros pour grimper dans les cheminées, se trouvaient souvent responsables d'une équipe de 3 à 6 enfants. L'argent récolté était intégralement récupéré par le maître ramoneur qui souvent s'emparait aussi du pourboire des enfants. Quand il rentrait en mai, le maître reversait aux familles une somme d'argent équivalente à peu près au prix d'un veau. Il arrivait que les petits ramoneurs meurent de froid ou la tête fracassée lors d'une chute. Fréquemment, ils contractaient des maladies respiratoires et devenaient allergiques ou aveugles à cause de la suie. Les lois de 1874 et de 1892 relatives à l'emploi des enfants découragèrent les maîtres ramoneurs à employer ces pauvres enfants en bas âge et peu à peu, cette migration des petits savoyards cessa.
Il a neigé à Port-au-Prince, il pleut encore à Chamonix, on traverse à gué la Garonne. Le ciel est plein bleu à Paris. Mamie, l'hiver est à l'envers, ne t'en retourne pas déjà. Le monde entier est en chamaille, on gèle au sud, on sue au nord. Chanson connue. Fais du feu dans la cheminée, je reviens chez nous. S'il fait du soleil à Paris, il en fait partout.
Merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la basse marche que j'ai intitulée « Autour de la cheminée, hier, en basse marche ». Pour les textes, nous l'avons fait en compagnie de Paul Lavergne, de Charles Sylvestre, de Jules Marouzeau, de Louis Peignot et d'Albert Gourceau. Pour les illustrations musicales, nous avons fait appel au groupe Maluzerne, J'ai l'accordéon, On se défend, Les éoles, La lanterne et à Jacques Douai qui nous interprète en ce moment la chanson de Jean-Pierre Ferland, Fait du feu dans la cheminée. Je vous invite à nous rejoindre le week-end prochain pour une nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la basse marche. À très bientôt et très bonne semaine à vous tous.
Fais du feu dans la cheminée, je reviens chez encore une fois. Fais du feu dans la cheminée, je reviens chez nous. S'il fait du soleil à Paris, il en fait partout.
Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région.